Voilà, bonjour à tous, ça faisait longtemps. Et je remercie de cette possibilité encore de libérer une fois ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je veux simplement qu'on puisse prier. Alléluia, Papa. Seigneur, on veut te dire vraiment merci que tu es le Dieu des cieux, que tu es le Dieu vivant. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais sur nos jeunes, merci pour Aurélie. Merci de la bénir, de faire grandir encore ta grâce sur sa vie, ton onction, ta bénédiction. Ton ministère, Seigneur, tu l'envoies dans tout ce que tu as préparé pour elle. Je te prie que ta grâce soit aussi sur ce que je vais dire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, en fait, il y a deux mots qu'il me semble que le Seigneur aimerait réhabiliter et restituer, avec tout ce qu'il signifie, avec ce qu'il y a derrière et avec leur profondeur. Et le premier fait un peu suite à ce qu'on a déjà vu il y a quelques mois, sur l'Alliance, et vu que tu avais parlé d'Alliance, j'avais parlé de l'Arche de l'Alliance, et j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. Dans Hébreux 8, 6 à 12, je ne vous dis pas le mot, je vous laisse peut-être trouver un petit peu si vous y arrivez. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait été pas question de la remplacer par une seconde. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité. C'est intéressant parce que le mot alliance ici est diatéké. Galates 3, 15 à 18. Une disposition en bonne et due forme, bien que faite par un homme, n'annulée par personne. Personne n'y ajoute quoi que ce soit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être changée. Et la promesse ne peut pas être rendue vaine. Même si une loi survient 400 ans plus tard, elle n'aura pas d'effet sur cette promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et le mot disposition ici est, à votre avis, diatéké. C'est le même mot. Donc, mais alliance ou disposition, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que diatéké? Diatéké, c'est une disposition, un arrangement, un contrat que l'on voudrait voir validé. C'est la dernière disposition au sujet des possessions terrestres qui va se faire après notre mort. En d'autres termes, c'est un testament. Diatéké, c'est le testament. Donc si je reprends Hébreux 8, 6, 12, il est le médiateur d'un testament plus excellent, établi sur de meilleures promesses. Si le premier testament avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par un second. Voici le jour vient où je ferai un testament nouveau, un nouveau testament. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, etc. Galates 3, un testament en bonne et due forme, bien que fait par un homme, n'annulé par personne. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voici ce que je veux dire, un testament confirmé par Dieu antérieurement ne peut pas être annulé, etc. L'héritage vient de la loi. Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, il vient de la promesse, il vient par testament. L'héritage vient par un testament. Évidemment, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? L'héritage, c'est ce qu'on reçoit quand quelqu'un est mort. Un héritage n'a de sens qu'à partir de la mort de quelqu'un. Pour que l'héritage existe, il fallait qu'il y ait une mort. Il fallait que quelqu'un ait établi un document, un contrat, qui serait validé après sa mort. Hébreux 9, 15 à 20. Même la version seconde doit utiliser le mot testament. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, disait second. Mais si vous lisez la Bible Martin, elle marquait le Nouveau Testament, afin que la mort intervenant pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il fallait qu'il y ait mort d'un testateur. C'est pour ça que même dans la première alliance, il y a eu des morts. Il y avait du sang versé parce que l'héritage ne peut être transmis que s'il y a une mort. Et l'alliance de Dieu même dans l'Ancien Testament ne fonctionnait qu'au travers du sang, de la mort, de personnes. Mais là, le Seigneur a permis que ce soit des animaux qui n'étaient innocents, qui n'avaient rien fait et qui permettaient que Dieu bénisse le peuple. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine, écarlate et du lysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang du testament. » C'est bien plus loin que le sang de l'alliance. C'est le sang du testament. Le sang que nous avons bu tout à l'heure, ce n'est pas seulement le sang de l'alliance. Ça l'est aussi, mais ça va beaucoup plus loin. C'est le sang du testament. Le Seigneur, quand il vous fait boire le sang, il est en train de dire « C'est le sang de le contrat que j'ai établi avec toi au travers de ma mort. » Les traducteurs ont eu un problème de taille. En effet, les versets de l'Ancien Testament repris dans le Nouveau Testament montrent que le mot « diatéke » correspond bien au mot « alliance » de l'Ancien Testament. Donc, quand ils ont traduit le mot « diatéke », ils ne pouvaient pas dire « testament » parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que le mot correspondant dans les versets de l'Ancien Testament voulait dire « alliance ». Dans l'Ancien Testament, le mot est clairement une alliance. Dieu établissait une alliance avec le peuple. Et alors les traducteurs, ils étaient gênés. Au lieu de traduire testament, ils ont traduit alliance. Mais le mot diatéke, c'est un testament. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il eu cette incompréhension? Pourquoi? Parce que Paul a une révélation spécifique. C'est à lui que Dieu a révélé qu'il s'agissait du testament. Dieu n'a pas pu dire à son peuple d'Israël, c'est un testament. Il n'a pas pu dire à Abraham, je te fais un testament Abraham, on va faire un contrat, sache que c'est un testament, sache que moi je vais mourir et vous allez hériter de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, de toute ma richesse et de toute ma gloire. Abraham n'aurait rien capté. Alors Dieu a mis sous couvert une vérité, une réalité des plus profondes. Tout en ayant dans la tête le mot testament, disant, mon cher Abraham, en fait ce que je suis en train de te dire, c'est que je vais te bénir. Je vais bénir les nations au travers de toi. Les nations vont recevoir les promesses. Tout ce que je promets, tout ce que je veux faire pour vous, toute la gloire de ce que je veux donner, les nations, le Saint-Esprit, les bénédictions, tout ça, vous le recevrez parce que je vais mourir. Abraham, Dieu ne l'a pas dit à Abraham. Il a dit, je vais vous bénir. Les nations seront bénies au travers de toi. Mais je ne te dirai pas que je vais mourir. Tu ne pourrais pas le comprendre. Par contre, qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Il lui a fait vivre. Il lui a dit, Abraham, je ne peux pas te donner une connaissance théorique de cette réalité, mais je te donne une connaissance pratique. Donne-moi ton fils, donne-moi ton unique, ton héritier, celui que tu aimes, celui qui est appelé à tout hériter de ta part, celui pour qui tu ne garderas rien. Quand tu fais un testament, tu mets tout dans le testament, tu ne gardes rien. Il n'y a pas un truc, tu ne gardes pas un centime de côté. Il n'y a pas une seule chose que tu dis, ah non, ça j'ai envie de le garder pour moi. Dans une alliance, tu mets une partie en échange avec l'autre. Tu te dis, tiens, ça je te donne ça, tu essaies de mettre en accord. Et à la limite, tu peux même des fois reprendre, mais dans le testament, tu ne réfléchis plus. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Tu fais un bilan. Qu'est-ce qui est à moi? Quels sont mes titres? Quels sont mes noms? Quelles sont mes richesses? Quelles sont mes propriétés? Quels sont mes biens? Tu fais un bilan total. Et après, tu dis, et j'en fais quoi maintenant? Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il a fait le bilan de tout ce qu'il avait. Il a fait son check-up. Et il a dit, maintenant, je donne tout. Je ne garde rien, je fais un testament. Et Abraham ne l'a pas connu théoriquement, mais il l'a connu pratiquement. Il a donné le fils qu'il aimait. Et quand Dieu, un jour, le lui a révélé certainement dans les cieux, il a compris, Abraham a pu se dire, Dieu, je sais ce que tu as voulu dire, je comprends. Paul, il dit, en Éphésiens 3:7, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Quels sont les mystères? Éphésiens 2, c'est toutes ces richesses de l'héritage, toute la bénédiction. À un moment donné, Paul il dit que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez voir la glorieuse richesse de l'héritage des saints. La glorieuse richesse de l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Sinon que le fait de quelqu'un mort et qui transmet tous ses biens. Il est une révélation de ce mystère en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence, la profondeur de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Même Israël n'a pas tout compris. Même Abraham et Moïse n'ont pas tout su. Même les prophètes, ils ne voyaient pas tout. Comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc il y a une profondeur de révélation qui allait plus loin, qui était plus profonde. Et que le Seigneur voulait. ce mystère, c'est que les païens sont des co-héritiers, les héritiers du testament. Ils forment un même corps, ils participent à la même promesse. Le testament s'adresse non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Ainsi, je vais sauter un petit peu. Alléluia, Jésus. Le Nouveau Testament donne la puissance de sauver des nations. C'est le temps d'entrer maintenant dans l'héritage. Si vous prenez dans Actes 26, je me suis un peu perdu, je voulais raccourcir un peu. Actes 26, 17. Jésus parle à Paul sur le chemin de Damas et lui dit: je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur rouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Est-ce que ça s'arrête là? Et l'héritage. Nous sommes appelés à recevoir par la foi non seulement le pardon des péchés, mais aussi l'héritage. Et c'est le moment de commencer à faire rentrer le testament en activité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Dieu a décrit tous les termes, tout ce qu'il voulait donner, tout ce qui était son héritage, tout ce qui il était, sa richesse et sa gloire. Il l'a mis dans un contrat. Il a établi ce qu'il a appelé un témoignage. L'arche de l'Alliance, c'était aussi l'arche du témoignage. C'est comme si le mot Alliance ne suffisait pas. Dieu a donné un autre nom, l'arche du témoignage. Il a fait un contrat. Et il a fait devant témoin, il a dit: voilà ce que je veux donner à mon bien-aimé, voilà les richesses. Il a appelé ça la loi, il a appelé ça les bénédictions, la verge d'Aaron, etc. Tout ça, c'était comme un contrat préparé d'avance que Dieu mettait dans un... Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un testament? On le met où? On le met dans un livre et on le met dans un coffre. L'arche voulait dire coffre. Dieu a mis le testament dans un coffre. Et il a protégé ce coffre pendant des siècles. Il regardait ce coffre, ses yeux étaient sur le coffre, il regardait le testament, ce qu'il allait transmettre à ses héritiers. Il tremblait en regardant ce testament, il en pleurait, parce que c'était lui, c'était sa vie qu'il était en train de transmettre. Et les héritiers de la Nouvelle Alliance, nous sommes les porteurs, les arches du Nouveau Testament. Nous sommes des arches du Nouveau Testament. Dieu a mis en nous le testament, il est dans nos cœurs. Il contient tout l'héritage avec la description. Ce qui fait que maintenant, quand vous lisez la parole, vous n'êtes pas juste en train de lire qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu est, qu'est-ce que Dieu dit. Vous êtes en train de lire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi, comment Dieu te décrit, qu'est-ce que Dieu te donne. Ça t'appartient. C'est à toi. Romains 4, 13, 14. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. L'héritage du monde. Le testament veut dire héritage du monde. Le testament, c'est aussi l'héritage de l'esprit. Quand Jésus est mort, il a dit à ses disciples, il a donné ses ordres, et il a dit aux disciples: vous recevrez le Saint-Esprit, attendez-le. C'est les dernières paroles, attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est la promesse la plus grande, la plus forte de Dieu, le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement du testament. Donc l'Ancien Testament dévoile qu'est-ce que doit être le contenu du testament. Les évangiles dévoilent la mort du testateur et la suite du Nouveau Testament dévoile la mise en pratique et en activité et en action du testament. Désormais, le testament est devenu actif et Dieu jubile. Et tu es porteur du Nouveau Testament. La parole de Dieu dit: tu es ministre du Nouveau Testament. Tu es un ministre du Nouveau Testament. Tu es en train de porter ce testament en toi et de le transmettre, de dire à chacun: tu es appelé à être un héritier. Nous sommes des ministres du Nouveau Testament. Quand on boit le sang du testament. Tu te souviens que le testament désormais, il est à toi, que tu es fils du testament, tu es l'héritier. Qu'est-ce qui se passe quand on a... Je voudrais passer à mon deuxième mot. Premièrement, recevons l'héritage, hein, c'est un acte de foi. Quand tu ressens un testament, qu'est-ce que c'est l'héritage du testament? Ce sont les nations, c'est l'esprit, c'est les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'Israël a fait quand il a reçu son territoire? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû se combattre, ils ont dû se battre. Et je crois que le Seigneur lève des combattants au milieu de nous. Et j'aurais voulu commencer ceci parce qu'il était marqué sur la croix de Jésus quand il est mort. Qu'est-ce qui avait marqué sur la croix à la mort du testateur? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous rappelez? Roi des Juifs. Roi des Juifs. Pardon? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ça qui m'intéresse du tout. C'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qu'est-ce que c'est Nazareth? Pourquoi sur la croix y avait-il marqué Jésus de Nazareth? Quel est l'intérêt que le Saint-Esprit a permis que sur la croix on mette Jésus de Nazareth? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Nazareth? Comment? Galilée. Terme des nations. Alléluia. Je voudrais parler d'un quelque chose qui existait dans l'Ancien Testament. C'est une réalité qu'on a perdue et que Dieu veut restaurer. C'est le temps de la restauration d'un certain type de personnes. C'est décrit dans Nombre 6, les nazirs. Les nazirs. Je vais essayer d'y arriver. C'est le temps des nazirs. Qu'est-ce que c'était que le nazir? C'était une personne qui décidait de se consacrer à Dieu en ne buvant pas de vin, en ne touchant pas le raisin. Il ne se coupait pas les cheveux et il se promettait de ne pas toucher les morts. Le nazir. Il y a des nazirs qui l'ont été dès le sein de leur mère. Samuel a été un nazir. Il a été consacré à Dieu dès sa naissance. Nazir, consacré à Dieu. Il était consacré à Dieu dès sa naissance. Samson a été consacré à Dieu dès sa naissance. C'est pour ça que tout le monde sait que ses cheveux n'étaient pas coupés. Il ne buvait pas de vin. Il y a un autre nazir encore, c'est Jean-Baptiste. Il était consacré à Dieu dès sa naissance. Trois hommes, Samson, ses cheveux n'étaient pas coupés. Il a reçu une force énorme, spirituelle, qui a fait de lui l'homme le plus fort de la terre. Samuel, par l'onction de nazir qui était sur sa vie, il est devenu l'homme qui a permis qu'Israël rentre dans sa destinée parce qu'il a pu mettre en place des rois, la royauté, et faire d'Israël un royaume. C'est lui qui a oint David. Il était le prophète de Dieu pendant 40 ans, par la puissance de l'Esprit, sous l'onction, 40 ans. Jean-Baptiste, il a reçu l'onction du précurseur. Il était celui qui a préparé le chemin du Seigneur, celui qui a tourné les cœurs des pères vers les fils et le cœur des fils vers le père. Il a préparé la venue de Jésus, parce qu'il était un nazir, parce qu'il avait l'onction de nazir sur sa vie. Jésus, il a été un nazir. Il était appelé, chaque fois que le Nouveau Testament dit Jésus de Nazareth, il va falloir que vous appreniez à lire Jésus le Nazaréen. C'est Jésus le Nazaréen, le Naziréen, Jésus le Nazir. C'est le même mot, c'est la même racine. Et ce n'est pas seulement parce qu'il venait de Nazareth. Je ne pense pas qu'il s'appelait le Nazaréen parce qu'il venait de Nazareth. Je pense que Nazareth s'appelait Nazareth parce qu'il y a eu un Nazir qui a grandi au milieu d'elle. Il fallait le village qui voit grandir le Nazir des Nazirs, le plus grand de tous les Nazirs. Alors Nazareth, oui, tu as vu, il fallait que Jésus vienne habiter au sein de toi parce que les prophéties disaient qu'il s'appellerait le Nazaréen. Voilà ce que ça veut dire. Le Nazaréen a grandi à Nazareth parce que sur sa vie, il y avait le mot Nazir, consacré à Dieu dès sa naissance. Consacré à Dieu. Est-ce qu'il y a eu d'autres Nazirs? J'aimerais qu'on lise dans Juges 5, verset 2. Juges 5, verset 2. En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Il va falloir que je le lise après dans ma version. Qu'est-ce qu'il a fait Salomon, Samson? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses cheveux ont poussé. Sa chevelure est devenue énorme, immense. Elle était devenue quelque chose qui témoignait de lui que c'était un nazir, qu'un nazir sortait, tout le monde savait que c'était un nazir. Tout le monde savait que ce gars-là avait décidé de faire un vœu pour Dieu, de se mettre à part pour Dieu. Des nazirs avaient le droit de se mettre à part pour un temps. Ça pouvait être un mois, un an, deux ans. Ils avaient le droit de choisir. À part les nazirs qu'ils étaient dès leur naissance, ils avaient le droit de dire « Pendant un temps, je me consacre à Dieu et je veux devenir un instrument à son service. » Et alors l'onction de Dieu venait sur sa vie comme sur un prêtre, comme sur un sacrificateur. Il devenait un instrument choisi par Dieu au même titre qu'un lévite. Il était oint, une onction venait sur sa vie. Et alors, quand il y avait quelque part un nazir, un homme avec une longue chevelure, qui normalement est un signe de honte, pour là, ça devenait un dire, attention, il y a un oint de Dieu qui est là. Quelque chose va se passer. De la même façon qu'un prophète venait et qu'on savait qu'une parole de Dieu venait, qu'un nazir venait, on savait qu'il y avait une œuvre de Dieu qui est en train de se préparer. Une onction de Dieu venait pour un acte précis. Juges 5, verset 2. Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël, le peuple s'est montré à combattre. Et vous savez comment la Sommaire traduit ça ? Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures. Ils ont relâché leurs chevelures. Ces gars-là s'étaient tenus prêts à combattre. Comment ? Pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Ils avaient fait un vœu à l'Éternel. Ils s'étaient consacrés à Dieu. Ils ne touchaient plus le vin. Ils ne s'approchaient plus des morts. Ils se sanctifiaient. Et leurs chevelures poussaient dans l'ombre. Elles poussaient dans le secret. Ces gars-là se mettaient à part pour Dieu. Et le jour où la guerre venait, ces gars-là sont sortis en force. Ils ont dévoilé leurs chevelures. Ils ont ouvert les anneaux. Et les gars, les soldats qui étaient à côté d'eux ont vu les oints de Dieu, les consacrés à l'Éternel. Et alors ils ont poussé un grand cri parce qu'ils savaient qu'il y en a qui s'étaient tenus prêts à combattre et qu'il les menait au combat et que la victoire ne pouvait pas échapper à cause de ceux qui s'étaient tenus dans l'onction, à cause de ceux qui avaient laissé pousser leurs chevelures. C'est le temps pour les jeunes de laisser pousser vos chevelures. C'est le temps pour vous de vous consacrer. C'est le temps pour vous de vous mettre à part. C'est le temps pour vous de vous tenir à part, de ne pas boire le vin de ce monde. Le monde veut vous offrir du vin. C'est le vin de ses plaisirs, le vin qui veut prendre la place de Dieu, le vin qui veut dominer vos vies. Et le Dieu vous dit, mes jeunes, mes guerres de l'Éternel arrivent. Et j'aurai besoin de mes consacrés. J'aurai besoin de ceux qui marcheront devant le peuple, de ceux qui emmèneront le peuple à la victoire. Est-ce que tu veux en faire partie ? T'as le droit de vivre ta vie. T'as le droit de faire ce que tu veux de ta vie. T'as le droit. Mais est-ce que tu veux te consacrer à moi ? Est-ce que tu veux ne pas boire le vin de ce monde ? Est-ce que tu veux ne pas toucher aux plaisirs qui vont dominer ta vie ? Est-ce que tu veux ne pas t'approcher des morts ? Est-ce que tu veux ne pas t'approcher des théories de mort ? Est-ce que tu veux ne pas accepter les théories de mort sur ta nation ? Est-ce que tu veux te tenir comme un combattant qui refuse la mort dans sa nation, sous quelque forme qu'elle soit ? Est-ce que tu veux être un gars qui laisse pousser ses cheveux, quitte à être vu des autres ? Quitte à être vu qu'il est différent des autres ? Quitte à être vu qu'il a un langage différent des autres, un comportement différent, des choix différents ? T'as le droit de faire comme tu veux. Peut-être t'as le droit. Peut-être t'as le droit. Parce que quand tu t'es consacré à Jésus, quand tu lui as donné ta vie, je vais te dire une chose. Tu es devenu un nazir de l'Éternel. Tu es devenu un nazir du Très-Haut. Tu es devenu l'enfant du nazir. Jésus a été appelé le chef de la file des naziréens. Les premiers chrétiens s'appelaient les naziréens. Parce qu'ils étaient reconnus comme étant mis à part pour Dieu. Et on est reconnaissait en eux des gens qui se mettaient à part, qui se sanctifiaient. Ils étaient les nazirs. Dans Lévitique, j'ai pas fini. Quand les chefs du peuple se sont tenus prêts à combattre, ils ont sorti leurs chevelures. Et un jour peut-être, très proche, on aura besoin de voir ta chevelure. On aura besoin de voir que tu t'étais sanctifié, tu t'étais mis à part. Et si tu ne l'as pas fait, tu seras comme Samson. Pauvre Samson. Sa chevelure était là. Il était rempli de force, rempli d'onction. Il allait devant n'importe quel ennemi, devant n'importe quelle armée. Il la décuniait. Il en faisait un lot de quilles. Il lançait sa balle et les quilles tombaient. Il était rempli de force. Mais Dalila est venue avec sa douceur, avec son mielisme. Elle est venue et lui a dit, d'où vient ta force ? Samson a résisté pendant quelque temps. Tu as l'impression que tu peux peut-être avoir les deux en même temps pendant un temps. Tu te dis, mais j'arrive à vivre du monde et j'arrive à avoir l'onction. J'arrive à goûter à certaines choses parce qu'elles sont pas, je ne crois pas qu'elles soient très mauvaises. J'arrive, je suis comme Samson, j'ai de la force encore. Je vois que Dieu me parle, je vois que le Seigneur m'aime. Et pourquoi je ne pourrais pas en même temps vivre ces choses-là, comme tout le monde? Et un jour, tu te réveilles. Et un jour, tu crois que ta force est là. Et un jour, tu veux briser tes chaînes. Et un jour, tu n'y arrives plus. Tu regardes tes cheveux, ils ne sont plus là. Merci Clément. Les miens non plus ne sont plus là. Les miens ne sont plus là. Mais est-ce que nos cheveux spirituels sont là? Est-ce que ta chevelure spirituelle est là? Et je sais que la mienne, elle est aussi limitée. Je sais que ma propre chevelure n'a pas la taille qu'elle devrait avoir. Je fais partie d'une génération qui a eu du mal, qui a combattu, qui a eu des blessures, qui n'a pas su laisser beaucoup sa chevelure grandir, qui n'a pas eu la connaissance que vous avez eue. Je voudrais dire, jeune génération, allez plus loin que nous. Que votre chevelure dépasse plus loin la nôtre. Que votre chevelure devienne lourde à porter comme celle d'Absalom. Que votre chevelure spirituelle atteigne de grandes mesures. Parce que vous êtes appelé à sauver des nations. Le Seigneur veut vous appeler à sauver des nations. Il vous donne l'héritage du monde. Vous êtes des héritiers du testament. Le testament attend. Le testament est là. Les nations sont là. Le Seigneur les a gagnées pour nous. Mais il dit, ça ne vient pas tout seul. J'ai besoin de mes combattants. Je fais de vous mes nazirs. Je fais de vous les mêmes que moi. Je vous ai tout transmis de ce que j'avais. Je vous ai transmis mon avis, mon onction, mon esprit. Je vous ai transmis ma parole. Et je vous transmets mon héritage. Et je vous appelle à vous lever comme des lions. Je vous appelle à marcher dans mes pas. Je vous appelle à porter les titres que j'ai portés. Je vous transmets mes titres. Je m'appelle Yeshua, celui qui veut sauver les nations de leurs péchés. Je m'appelle Adonai, le Seigneur, le Roi, celui qui règne, celui qui marche en vainqueur sur la terre. Je m'appelle Mashiach, celui qui vient pour sauver, délivrer son peuple et l'emmener à la victoire et régner sur lui en sauveur et en guide aimant. Ces titres, je vous les donne, je vous les partage. Cela fait partie de mon testament. Vous êtes appelés à marcher avec moi, à régner avec moi, à libérer avec moi. Vous êtes mes libérateurs. Je veux déposer sur vos vies l'onction du Nazir. C'est le temps de se mettre à part. C'est le temps. Amos 2, 11. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœux pour être des nazirs. J'en choisis parmi vous pour être mes prophètes et je choisis pour être des nazirs. Le doigt de Dieu s'est posé sur vos vies. Il vous a choisi pour être ses prophètes et pour être ses nazirs. Maintenant, c'est à vous de choisir. Répondras-tu à l'appel? Marcheras-tu? Lévitique 21, 12. Vous savez que quand Jésus est mort, un des titres, c'était roi des Juifs. Il avait une couronne. Le roi est couronné. Le roi est couronné. Il se bat pour la couronne. Une couronne vous attend. Amen. Vous savez comment, dans le français, la première fois où le mot couronne apparaît, c'est dans Lévitique 21, 12. Le sacrificateur ne quittera pas le sanctuaire pour ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il était consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Amen. L'huile d'onction est une couronne sur lui. Vous savez ce que c'est que ce mot couronne? Personne n'ose le dire. Ce mot couronne, c'est le mot nazir. Nazir veut dire couronné ou à part. Il veut dire les deux. Il est couronné. Joseph, vous savez l'onction de Joseph qui était sur sa vie? Il était prince parmi ses frères. Vous savez ce que c'est, prince ? Nazir. Joseph était un nazir parmi ses frères. C'était celui qui était oint au-dessus encore. Il avait une double onction. C'était la double portion de l'héritage qui était sur sa vie. Il était le nazir parmi ses frères. L'huile d'onction qui était sur le Lévite, c'est un nazir, c'est une couronne sur sa tête. Il a des cheveux longs, ses cheveux longs sont comme une couronne. Le Seigneur te demande une chose, il veut déposer sur ta tête un jour la couronne de roi. Mais il te dit qu'avant de porter la couronne de roi, il faut que tu portes la couronne du nazir. La couronne du nazir va faire de toi un chef, un combattant, un héros. Tu vas gagner les guerres, tu vas gagner des nations. Et quand tu auras gagné tes guerres, tu rentreras dans ton héritage, tu seras couronné de la couronne royale. C'est pour ça que Jésus avait le double titre. Yeshua, Anasri, Vemelech, Ayoudim. Je suis désolé, j'ai retenu sans le vouloir. Jésus, le Nazir, roi des Juifs. Premièrement, la couronne du Nazir, celui qui s'est consacré à son Dieu, qui s'est mis à part pour Dieu, qui a tout donné pour son Dieu, pour faire sa volonté, qui a accepté d'aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'humiliation de la mort, pour avoir une nation qui hérite de lui tout ce qu'il a, qui lui ressemble en tout point, qui lui est totalement semblable. Il s'est cloné. Il s'est cloné. Il a fait des êtres semblables à lui et il leur a tout donné. Et alors maintenant, la couronne de Nazir est sur lui. Il recevra la couronne royale. La parole de Dieu nous dit, prends garde que personne ne prenne ta couronne. Prends garde que personne ne vienne couper ta chevelure parce que tu passeras à côté de ta couronne royale. Alléluia. C'est le temps de se mettre à part pour son Dieu. Alléluia. Je pense simplement qu'on peut prier. Dans un premier temps, j'aimerais simplement vous proposer d'accepter le testament. Par la foi, tu reçois ton héritage. Par la foi, tu reçois que tu as tout reçu gratuitement. Tout est à toi, la parole de Dieu dit. Et ton testateur, la plus glorieuse des choses, évidemment, c'est que ton testateur est revenu à la vie. Il a donné sa vie, il est mort pour que tu aies tout, pour que tu aies tout ce qu'il avait. Et il est revenu à la vie et il partage tout avec toi désormais. Tout est à toi et tu es à Christ. Et Christ est à Dieu. Simplement, j'aimerais qu'il y ait cet acte de foi dans nos cœurs. S'il y en a qui aimeraient lever la main, ils peuvent le faire. Seigneur, nous voulons accepter l'héritage par la foi. Nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons reçu le salut. Nous avons reçu la guérison. Nous avons reçu la délivrance, nous avons reçu l'amour du Père. Seigneur, nous avons reçu l'Esprit, mais maintenant nous recevons aussi l'héritage. Nous recevons l'héritage. Nous recevons l'héritage. Nous recevons l'appel que nous avons été levés pour relever les héritages désolés. Il y a des héritages abandonnés. Et le Seigneur est en train de t'appeler pour que tu relèves les héritages. Relève ton héritage. Quand les pharisiens ont vu Jésus, ils ont dit « Tuons l'héritier afin que l'héritage soit à nous. » Ils ne savaient pas qu'en tuant l'héritier, ils tuaient l'héritage. Ils ont tué leur héritage et ils ont tout perdu. Par contre, toi, tu as reçu l'héritier. En recevant l'héritier, tu as reçu l'héritage. Tu es héritier. Le testament fait de toi un héritier. Tu sais que le Seigneur, quand il écrit un testament, il écrit un livre qui s'appelle le livre de vie et où il a mis le nom de tous ses héritiers. Et dans le livre de vie, il y a ton nom. Tu es l'héritier. Alors quand le Seigneur, il va vers le notaire et il dit, voilà, je suis mort. Maintenant, mon contrat, mon testament, il faut qu'on l'active. Il regarde dans la liste et il voit ton nom. Tiens, c'est à toi. Tout est à toi désormais. Tu peux prendre, viens, par la foi, reçois ton héritage et rentre. Tu le reçois par la foi. Et maintenant que tu as reçu l'héritage, ton Dieu te dit, écoute, moi j'ai marché comme un nazir pour entrer dans mon héritage. Pour accomplir mon héritage, j'ai dû être un nazir. Est-ce que tu veux être nazir après moi? Tu es déjà nazir parce que tu as donné ta vie. Mais maintenant je ne t'oblige pas. Tu es un nazir consacré dès ta naissance. Dès ta nouvelle naissance, tu étais un nazir consacré. Tu m'appartiens. Tu es consacré. Tu es loin de mon huile sainte. Tu es à part pour moi. Tu es sanctifié. Tu es appelé à recevoir l'héritage avec les sanctifiés, parmi les sanctifiés, en tant que sanctifié, en tant que tel, en tant que saint, tu es héritier. Mais maintenant, quelque part, il faut que tu fasses ton vœu à ton tour. Il faut que tu t'y engages dans ce chemin. Il faut que tu le confirmes. Il faut que tu l'acceptes et que tu y marches. Et ça dépendra de toi jusqu'à quel degré tu veux être mon nazir. Quel est le degré que tu veux dans ton cœur? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Ou est-ce que c'est 10? Jusqu'à quel point veux-tu être mon nazir? Jusqu'où veux-tu aller? Quelle est la mesure d'héritage que tu désires? Quelle est la mesure de ma gloire que tu veux voir arriver sur ta nation et sur ta terre? C'est toi qui choisiras. Ne dis pas que tu es trop jeune. Le Seigneur t'appelle. Ne dis pas que tu es trop vieux. Samson a ses cheveux en repoussé. Clément me disait que je devais encore partager un truc. Samson, quand on lui a coupé les cheveux, on lui a crevé les deux yeux. Il a perdu la vue. Il ne voyait plus rien. Tu ne vois plus justement quand ta chevelure est coupée. Quand tu n'es pas à part pour Dieu, tout ce que tu vois est trompeur. Tu te trompes dans beaucoup de choses. Ta vue est faussée. Tes yeux spirituels sont éteints. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux spirituels afin que tu sois un homme d'onction qui voit loin dans le spirituel. Alléluia. Simplement, je vous invite à faire ces pas avec votre Dieu, avec votre nazir, et devenir à votre tour le naziréen. Rentrez dans la voie des naziréens. Rentrez. Suivez le chef de file. Suivez Jésus le naziréen. Alléluia. Seigneur, on veut t'adorer. Seigneur, merci que tu lis dans l'équerre. Merci que tu es venu habiter en nous. Tes lois sont écrites dans nos vies, ça fait partie du testament. Le Nouveau Testament, c'est que j'écris mes lois dans leur cœur. Mon Nouveau Testament, c'est que je viens habiter dans vos cœurs. Le Nouveau Testament, c'est que mon Saint-Esprit est en vous. C'est votre promesse, c'est votre héritage, c'est ce qui vous appartient désormais. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Mais maintenant, je vous appelle à aller plus loin, à rentrer dans votre héritage, à vous lever pour les guerres de l'Éternel. Parce que les temps arrivent et mes nazirs seront là. Je les verrai et ils seront vus. Seigneur, je bénis chacun au milieu de nous. Je proclame ta bénédiction, ta grâce et ta gloire. Je bénis chacun en tant que nazir. Je dis que l'onction de l'Éternel est sur sa vie. Il a fait un acte d'alliance avec toi. Il est entré dans l'héritage. Il a été oint. Tu as mis sur sa vie le mot nazir. Et j'appelle maintenant et je proclame, je bénis tous les choix, tous les vœux pour s'engager plus loin avec toi dans la voie du naziréat. Je proclame, je bénis les vœux de naziréat au nom de Jésus. Quel que soit ton type de vœu, quelle que soit ta façon de t'engager avec ton Dieu, même si tu veux faire des pas spécifiques pendant un certain temps, tu peux, ce soit un jeûne de viande, un jeûne de légumes, un jeûne de fruits, de sucre, pardon, que ce soit une activité que tu mets à part, quelle qu'elle soit, en tout cas, même déjà la décision de ton cœur, je la bénis dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que sa grâce soit sur ta vie, au nom de Jésus. Amen.